Bonjour Gérard.
Bonjour Jean-Philippe.
Nous avons eu l'occasion de nous revoir récemment. Alors je dis nous revoir parce que nous étions rencontrés dans un cadre professionnel il y a une trentaine d'années, sans savoir que nous étions l'un et l'autre d'ex-membres du Club Med, Géo et toi chef de village. Et là, le hasard des rencontres a fait que via notre réseau respectif, nous avons donc un ami commun, Franco. On se contentera de son prénom, qui nous a permis de reprendre contact. Et puis, eh bien, en discutant de choses et d'autres, je t'ai proposé de faire ce podcast pour raconter ton parcours du Club Méditerranée. Alors, précision, quand nous avons été au Club Méditerranée, nous ne nous sommes pas rencontrés au Club Méditerranée. Nous ne sommes pas connus au Club Méditerranée.
Ah non, on ne fréquentait pas les mêmes chefs de village, on n'a donc pas eu les mêmes parcours géo.
Voilà, et puis il y a eu un petit décalage, puisque toi tu es rentré au Club Med avant moi, je vais te laisser raconter ton histoire. Je vais simplement souligner un point particulier, c'est que tu étais promis à faire Polytechnique avant de rentrer au Club Med.
Oui, bien sûr, les mathématiques mènent à tout.
C'est bien connu, mais je te laisse raconter ton histoire. Ton parcours Club Med.
Oui, et puis peut-être aussi avant, c'est-à-dire pourquoi je suis rentré au Club Med, parce que en fait, moi je suis rentré au club en 71. Alors les mauvaises langues vont dire 1871, 1971. Qu'est-ce que t'as fait? Où est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce qu'il était inclus dans une boule de résine comme dans Jurassic Park, d'où tout le sort celui-là, quoi.
Oui, parce qu'il n'y avait pas LinkedIn pour recruter à cette époque.
Non, à l'époque. Et donc, 71, et j'avais 22 ans, et le club aussi, parce que je suis né en 49, le club aussi. Donc en fait, on s'est rencontrés à l'âge de la maturité, le club et moi, et on s'est construit ensemble. Donc on a eu les mêmes héritages, ceux d'avant, et puis on a essayé d'aller un petit peu plus loin pour faire partie de ces fameux 100 chefs de village, des 100 villages des années 70-80, qui sont dans la légende du club. Je ne sais pas si tu as vu ce poster magnifique où il y avait les 100 chefs de village du club. J'y suis, avec des figures incroyables. Donc comment ça s'est passé pour en arriver là, si c'est la question que tu me poses?
Comment as-tu croisé le Club Med? Parce qu'on ne croise pas par hasard.
Je veux dire que tout ce que je vais raconter là, finalement je suis obligé de parler de moi, puisque je suis le sujet de cette interview, mais
absolument.
En fait, je voulais dire deux choses. La première, c'est que je suis un inventeur, mais qu'on n'invente jamais rien. On n'a que l'héritage des gens qui étaient avant nous, et on y met sa petite sauce. Donc on réinvente. Voilà. Et puis on n'invente jamais seul. Et tout ce que je vais raconter là, c'est une équipe, toujours. C'est des gens qui ont été avec moi, des gens qui m'ont suivi, des GM qui m'ont adoré, qui ont participé à tout ce qu'on a eu le plaisir de réussir, quoi, et d'inventer. Mais j'ai toujours inventé. Donc comment j'ai fait pour inventer? Si on fait un petit retour en arrière, moi je suis un enfant, j'ai été fabriqué au Nord Cameroun, parce que mes parents se sont mariés dans le Nord Cameroun en 47. Alors tu vois, c'était mal barré pour une vie normale. Et je suis né à Versailles, mais je suis tout de suite retourné en Centrafrique, et ma mère m'a fait l'école en plein de Centrafrique, en brousse, on n'était que trois, avec mes parents, en plein de brousse, et ma mère m'a fait l'école jusqu'à 10 ans. Donc ce qui fait que, tu parlais de Polytechnique tout à l'heure, je pouvais déjà rentrer à Polytechnique à 10 ans, vu le cerveau gavé que m'avait octroyé ma mère. Et puis, je suis aussi un rebelle, un enfant d'Afrique, un enfant de libre-pensée, un enfant qui marche pieds nus, etc. Et donc, c'était plutôt prédisposé pour le club.
Et puis, le cadre d'Actari, en plus, était approprié.
Oui. Ah bon, on en a attrapé quelques-uns, des éléphants et des buffles. Oui, c'est ça, c'est cette ambiance-là, un peu, de toute façon, quelques degrés de l'équateur. Hein. Et donc, comme j'étais bon en maths, etc., et plutôt parmi les gens qui étaient à l'aise dans ce domaine-là, j'ai fait la fac à Orsay. J'ai fait de la physique nucléaire, des mathématiques avancées, enfin des choses comme ça, des trucs complètement ingrats, mais j'adorais ça. Mais je ne voulais pas vraiment en faire mon métier, et en même temps, j'étais maître nageur. Et c'est là que j'ai rencontré un de mes potes incroyables, et on est là en 69-70, et arrive des États-Unis un truc incroyable qui s'appelle les bébés nageurs. Et nous, on était maître nageurs, et ça nous a donné l'idée de faire des cours, non pas de natation, mais d'adaptation à l'eau, de familiarisation. Et puis on était dans notre piscine à Orsay, là, on louait des bouées, on se faisait un peu chier, si je peux me permettre l'expression. Et on se trouvait pas très utile. Et d'un seul coup, on a eu l'idée, ce pote-là, Patrice, ça s'appelle, d'aller voir le Club Med. Elle me dit donc, vous avez 100 plages, 100 clubs de plongée, 100 clubs de windsurf, de ski nautique, de machin comme ça. Et puis les gens, ils ont peur de l'eau, hein, on est bien d'accord. Donc ce qu'on fait à faire, c'est qu'on va venir dans vos villages et vous apporter une méthode.
Donc tu n'as pas croisé par hasard le Club Med, tu y es allé oui. par détection d'un potentiel.
Oui, je n'ai pas été recruté par le club, je me suis recruté au club. Donc on est tombé sur quelqu'un que les gens du club connaissent bien, c'est Dudul.
Le fameux Dudul, chef des sports au Club Méditerranée.
Voilà, Worldwide, et qui a commencé à taper des deux points sur la table, puisqu'il y a deux cendriers sur le bureau de Dudul, c'est le martelage de ses points. Et cet extraordinaire petit bonhomme nous a d'abord traité de petit con, et puis après s'est intéressé quand même à notre proposition. Et du coup, il dit, ouais, mais faut m'écrire, il parlait comme ça, Dudul, ouais, faut m'écrire une méthode. Bon, eh ben, on l'a écrite. Et cette méthode, elle existe toujours, puisque la Fédération française de natation, aujourd'hui, en 2023, utilise toujours les principes qu'il y a dans cette première méthode. C'est magnifique. Tu vois ? Et donc, comme j'étais étudiant, je me suis dit, bon, allez, on fait une première saison. La première saison, c'était Nicotera. C'était au fin fond de la Calabre, et c'était une ouverture. Et donc, je suis arrivé là, et à moi tout seul, je passais 850 personnes par jour dans la piscine. Donc, je me suis dit, ça va bien. Ça fait vraiment le résultat attendu, donc j'arrête mes études et je continue au club. Et là, j'ai dit, bah écoutez, moi, je vais être chef des sports assez vite parce que j'ai des tas de projets, je vais inventer des tas de trucs. Et puis, je veux être, chef de village, parce que j'ai compris en une saison que si j'étais pas ça, c'est que j'avais pas fait les progrès qu'il fallait pour moi, pour les gens, pour le niveau attendu, quoi.
Donc, tout de suite, une ambition au Club
Med. Tout de suite, une ambition. Et un programme et un travail... tout de suite sur objectif, enfin tu vois, vraiment le mec anti-Club Med quelque part. Mais Club Med à fond. Club Med à fond parce que pour moi, la réussite de ce qu'on fait au club, c'est, et ça c'était chevillé en moi, c'était tenir la promesse. C'est-à-dire que si les gens venaient au club, c'est qu'ils voulaient s'éclater pour ceci, pour cela, et qu'il fallait vraiment tenir cette promesse. Et que après, bah comme j'avais fait un peu de physique nucléaire et des choses comme ça, je savais qu'il fallait mettre beaucoup d'énergie dans un petit endroit avec beaucoup de ressources pour arriver à faire de la magie, tu vois, pour faire de l'énergie, pour faire des choses incroyables. Et le club, pour moi, a toujours été l'instrument de travail pour faire ça, la plateforme permettant de faire ça. Et donc j'ai toujours vécu le club comme ça, avec cette vision-là, avec ce rapport-là. Et en même temps, bah, j'ai fait comme les copains. Hein. On a fait les signes démentiels, on s'est éclaté, on a fait toutes les conneries du monde. Voilà.
Vous avez joué le rôle.
Et puis on était vachement bien. Mais je voulais apporter toujours ma patte. Alors quand j'étais chef des sports, par exemple.
En quelle année, chef des sports ?
L'année d'après. En fait, j'ai fait deux ouvertures. J'ai fait l'ouverture de Nicotera en 71. Et l'hiver, on est parti à Assigny. Chef de village Serge Trigano et équipe Géo, bonne vingtaine de futurs chefs de village.
Oui,
allez. Donc il y avait un petit peu la crème.
Le vivier Serge Trigano, effectivement, a généré des
là,
chefs de village.
On a fait des trucs incroyables. J'ai une anecdote sur l'ouverture d'Assigny, qui est tristement célèbre par le cadre des bronzés. Hein. Mais c'était vraiment une équipe incroyable. Et
sauf que le film des bronzés n'a pas été tourné au Club Méditerranée d'Assigny, mais à côté.
Oui, à 500 mètres. Hein, donc c'était quand même un peu le même décor. Mais il y avait des gens absolument extraordinaires sur le plan de la cuisine, sur le plan des spectacles, sur le plan des sports, sur le plan des excursions, etc., etc. Donc on a fait des choses inouïes là-bas, évidemment. Mais j'ai quand même une anecdote qui montre assez bien comment on peut transformer les choses de façon magique. On a eu les 14 premiers Japonais clients du club qui ont acheté 4 jours à Assigny. Donc, je ne sais pas si tu vois, mais quand tu arrives des quatre coins du Japon, que tu as 4 jours de vacances, que tu as 24 heures de voyage pour aller à Paris, puis à Abidjan, puis dans la lagune, puis arriver au village.
Et repartir, en fait.
Et repartir deux jours après, ça fait quand même un voyage un peu compliqué. Et donc, on se disait...
Oui, ils ont l'objectif que ça soit rentable, comme investissement.
Ça, il fallait que ça soit mémorable, puisque c'était les 14 premiers Japonais. Et les vacances japonaises, c'était 4 jours, hein, à cette époque-là. Donc, on est en 71. Hein. Et donc on cherche, toute l'équipe, là, il y avait des créatifs de toutes parts. Et ben moi, j'ai trouvé un truc un peu différent. J'ai dit, écoutez, on va les accueillir grave, on va faire tout ce qu'il faut, etc. Et ils vont nous flasher, nous photographier comme des malades. Et ça n'a pas raté, hein. La pinasse est arrivée la nuit, ça crépitait des flashs à 500 mètres du village, ça flashait déjà sur l'accueil, et on était tous là, c'est-à-dire la promesse, ce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir, c'est-à-dire on était tous sur le ponton, on était tous jeunes, tous beaux, tous sympas, tous extra, tout trop bien, quoi.
L'image idéale, voilà. L'image type du géo bronzé en paréo.
Voilà, la promesse, donc respecter la promesse. Et dès que le premier japonais a mis le pied sur le ponton, on a dit une chose, tous on savait le dire, on disait « Satsuri Kinshi ».
Ce qui veut dire pour...
En japonais. Si j'ai bien prononcé, hein, les japonais vont avoir les yeux qui se dressent. « Satsuri Kinshi » en japonais veut dire « interdit de photographier ». Et donc on a mis derrière chaque japonais un garde du corps qui l'empêchait de photographier tout ce qu'il voulait photographier. Et il voulait tout photographier. Au bout de 2 heures, c'était la révolution. La révolution. Donc ces Japonais-là voulaient retourner au Japon. On dit à leur guide traducteur que c'était pas possible, qu'on ne pouvait pas faire ça, que c'était bien beau, que c'était bien ceci. Mais s'ils ne pouvaient pas photographier, ils partaient. Et là, on leur a fait le vrai accueil du club, où on leur a offert 12 pellicules de photos en leur disant « c'est ça le club, etc. Maintenant, on va vous dire tout ce que vous pouvez photographier, allez-y. » Et on avait fait des pellicules photos Club Med.
Donc c'était un jeu, en fait.
C'était un jeu, une provocation. C'est ça le club, c'est ça la magie. Parce qu'il faut, pour ça, il faut des idées, il faut toute une équipe géo qui a envie de faire la même grosse bêtise, quoi. Mais la grosse bêtise de cœur. Et j'ai la faiblesse de penser que quand on est capable de penser comme ça dans un village, globalement, à toute l'équipe, eh ben, on crée des souvenirs qui sont totalement indélébiles. Les gens, je ne vois pas comment ils n'auraient pas parlé pendant 10 ans de cet accueil-là au club, en japonais. Et j'ai la faiblesse de penser que ça a aidé le développement du club dans cette partie de l'Asie.
Alors, il est évident que quand les clients GM sont très satisfaits d'un séjour au Club Méditerranée, ce sont de très très bons ambassadeurs. Les meilleurs commerçants, en fait.
Ben, c'est ça.
Les meilleurs commerciaux du Club Med.
Oui, et puis on sait très bien, moi, dans les villages, le premier contrat extérieur que je prenais, c'était toujours le photographe. Donc je refaisais des appels d'offres, etc., pour avoir le meilleur photographe possible, parce que je savais très bien que c'était ça qui allait faire revenir les gens dans les villages. Les bonnes photos des vacances. Donc les Japonais, il était nécessaire qu'ils passent plein de photos. Voilà, donc ça c'est pour expliquer la magie un petit peu.
Donc là, tu étais chef des sports à Assini.
Non, j'étais maître nageur encore, c'était ma deuxième saison.
D'accord.
Donc j'étais toujours maître nageur, je m'occupais de la sécurité, la mer qui était très dangereuse, donc on a sorti quelques-uns de la patouille. Et là, j'étais très content d'être spécialiste mer, et d'avoir bossé avec les CRS tu vois, pour savoir sortir les gens de la patouille parce qu'on en a sorti quelques-uns.
Alors, quand est-ce que tu es devenu chef des sports?
Alors,
où est-ce que tu es devenu chef des sports?
Tout de suite. En fait, je suis venu à la troisième saison. Je suis devenu chef des sports, et pas dans un petit village, parce que c'était à Corfou, en 72, donc il y avait du monde.
En surbooking, c'était combien, à Corfou?
Oh, 1800.
Alors moi, j'avais fait Padinuro, c'était pas loin de 1500, 1600 ouais, en surbooking.
1800, avec les files, tu mettais les gens par trois, donc il y avait la file des célibataires hommes, la file des célibataires femmes, et la file des couples. Donc les mecs allaient choper les nanas pour dire on est en couple, comme ça ils étaient que deux par case, tu vois.
Alors pour situer le moment où tu étais à Corfou, qui était chef de village à cette époque?
Alors c'était Thierry Brenner. Et très curieusement, Thierry Brenner était quelqu'un qui était assez peu un homme du club, c'était un homme de marketing, c'était un homme de développement, d'image, de choses comme ça. Et c'était un homme extraordinaire, mais qui était l'antithèse. Du chef de village avec son trident, ses cheveux bouclés et son bandeau et son paréo. C'était quelqu'un de très, très anglais. Il était british, quoi. Donc il était top et il était à Corfou. Et nous, c'était marrant. Et c'est un mec prodigieux. Et bref, moi j'étais dépatouillé avec mes sports. Et là, Dudul me dit « Faut que tu m'inventes des jeux !» Bon, bah d'accord, j'ai inventé des jeux. Et ça me plaisait. Et donc, encore une fois, toujours pour faire la promesse, tenir la promesse pour que les gens qui venaient faire du sport s'amusent, mais grave, dans l'eau, avec une corde, avec un machin, avec un truc, bref.
Il me semble, tu me corriges si je dis une bêtise, que Corfou, à cette époque, dans les années 70, était la référence ski nautique du Club Med.
Oui, ski nautique avec le fameux accueil, tu sais, les bateaux, il y avait les 6 bateaux, 8 bateaux, avec 4 géos derrière à chaque fois, les drapeaux du monde entier, enfin c'était prodigieux ça. Mais il fallait le faire, hein. C'est-à-dire que sur les skis, il fallait tenir. Il
fallait tenir, absolument.
fallait être costaud. Donc, c'est les sports et les équipes, en général, les équipes de ski nautique qui faisaient le boulot. Mais pour, encore une fois, c'était encore ça, la promesse. C'est-à-dire que les gens venaient à Corfou pour voir les drapeaux tourner autour des caïques. Et tu vois, c'était fabuleux. Et Dudu me dit, bon, allez, tu vas inventer des sports, des jeux. Bon, d'accord, ben, j'ai inventé plein de jeux. Mais avec une règle simple. Par exemple, maximum de participants, minimum de règles. Tu vois ? Voilà. Et donc, les gens, ils étaient complètement éclatés, parce que c'était hyper simple, hyper intuitif, et il y avait à chaque fois 700, 800, 1000 personnes dans les jeux.
Est-ce que c'est toi qui as inventé le jeu que l'on pratiquait à Palinuro, qui consistait à mettre le maximum de gens dans un combi Volkswagen ?
Pourtant, c'était l'époque. Hein. Mais,
c'était de saison.
Des combis, ouais, c'était de saison. Non, je n'ai pas eu cet honneur-là. Par contre, on a inventé 2-3 tours de cochon, je sais pas quoi, les courses au citron, voilà, où on met 200 kilos de citron dans la piscine et 400 personnes autour. Et puis, c'est le bord qui ramène le plus de citron qu'à gagner. Voilà, bon. Mais pour ça, il faut 50 géos autour pour la sécurité, tu comprends ? C'est un tsunami, la piscine, hein, quand tout le monde saute en même temps dans la piscine.
Alors, chef des sports à Corfou, combien de personnes dans ton équipe ?
Oh, à l'époque, il devait bien y avoir 180 géos, hein, au sport, rien qu'au sport.
Rien qu'au sport.
Ah oui, c'était des équipes pléthoriques, parce qu'il y avait beaucoup, de voiles et beaucoup de ski nautique, donc ça faisait déjà presque 60 personnes, 70 personnes. Plus les pique-niques, plus les sports terrestres.
Toute la diversité des activités sportives du Club Med.
Plus l'équitation, plus le yoga, plus le tir à l'arc, plus le tir. Ça en fait.
Alors, question, as-tu été formé pour être manager au-delà de la spécialité sportive ?
Alors non, ça c'est venu de façon intuitive. En fait, l'idée c'était toujours d'être leader quelque part. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le club a fabriqué des leaders. Pas vraiment des chefs, mais des leaders. C'est-à-dire des gens qui étaient capables d'entraîner d'autres personnes, et dont les clients, hein, dont les GM, dans des trucs, voilà, dans des projets, dans des événements, et tout ça, en passant par des trucs fédérateurs. Voilà. Et ça, c'était l'idée. Donc moi, j'étais un peu plus outil méthode, mais bon, en même temps, toujours été leader, toujours aimé faire ça, etc., de faire des tours de cochon de partout. Donc voilà, donc j'ai fait chef des sports assez longtemps. En même temps, je continuais à faire mes histoires de natation, etc., de dupliquer à Pompadour, que tu connais bien, avec les maîtres nageurs, pour qu'ils partent avec d'autres idées que celles de 1, 2, 3, la grenouille. Et notamment, un hiver, en étant chef des sports, j'ai fait une saison à Livigno, où il y a la neige, le petit Tibet, là, en Suisse. Et c'était un village très très froid, mais il y avait une piscine. Et avec Dudul, on avait dit, bon, on va prendre les 23 ou 24 moniteurs de ski qui sont là, et comme ils n'ont pas beaucoup de polyvalence, on va leur apprendre à être maître nageur. Et donc j'ai formé des moniteurs de ski, je ne te raconte pas, c'était un bordel. Et on a formé ces moniteurs de ski, et les trois quarts ont eu leur diplôme. Donc du coup, ils partaient comme maître nageur.
Oui, parce qu'il faut expliquer, pour les quelques-uns qui écouteraient ce podcast et qui ne connaissent pas le Club Med, il faut savoir que un moniteur de ski en hiver, s'il veut partir au Club Med en été, il faut qu'il fasse autre chose. Alors, dans une activité sportive, le ski nautique est une possibilité, mais il y en a beaucoup d'autres.
Oui, oui. Ben, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le club, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que tous les gens qui bossent au club ont un vrai métier et qu'ils exercent un métier. Les barman sont barman, les régisseurs de spectacle sont des professionnels, les moniteurs de ski sont des professionnels, les moniteurs de voile aussi. Donc pour ça, les maîtres nageurs sont diplômés, et les gens du mini-club sont diplômés. Donc c'est déjà des professionnels de base. Après, avec 2-3 perlimpinpins dans la tête pour faire le reste.
Voilà. Et le sens de la fête.
Et le sens de la fête, et surtout le sens de la communion, je dirais, tu vois. De la communion, plus que de la fête. Parce que la fête, bon, pas compliqué à faire la fête. Tu bois un peu, ça va, ça rigole. Mais pour que cette fête soit profonde, pour que cette fête soit mémorable, pour que d'abord, si t'es trop bourré, tu t'en rappelles plus. Donc, pour que ça soit vraiment bien, il faut que ça soit un partage complet. Tu vois, une adhésion, on a fait des coups pas possibles, tu vois, en tant que chef de village. Après, j'ai eu la chance. Du coup, comme j'étais pas mal créatif, et que c'était l'idée de ça, tu vois, c'était plutôt des créatifs qui devenaient patrons, j'ai été très rapidement nommé chef de village. Je pense un des plus jeunes et un des plus rapidement de cette génération-là. Ben parce que j'étais force de proposition tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois. Et aujourd'hui, je suis recruteur. Et si les gens ne sont pas force de proposition, je ne les présente pas à mes entreprises. Hein, parce que ça n'avance pas.
Alors, quand est-ce que tu es devenu chef de village et qui est-ce qui t'a proposé de devenir chef de village?
Eh bien, Serge Trigano, puisque c'était lui qui était directeur d'exploitation à l'époque. Et donc, au bout de 5 ans, c'était mûr, c'était l'échéance qu'on avait fixée ensemble. Et je suis parti chef de village. Et ma première saison, ça a été extraordinaire. Extraordinaire, parce que j'ai voulu toujours faire des choses différentes. Alors, c'était Corba, ma première saison. C'est un village en Tunisie, de Caz. Et c'était complètement dingue, ce qui s'est passé pendant cette saison-là. J'ai des souvenirs inouïs. Par exemple, on faisait des journées de sport là-bas, qui étaient complètement dingues, et il y avait tout le village qui participait. Donc il y avait un quart du village qui était dans 4 équipes, dans chacune des 4 équipes. Et là, c'est là qu'interviennent mes grands amis Abdel Mahachi, qui était un très grand chef de village après, qui a fait sa première saison d'animateur avec moi, cette saison-là. Richard Sanchis, qui était un chef des sports extraordinaire, venant des commandos de marine, un mec incroyable, enfin bon.
Alors, tu n'es pas le premier à souligner, Stanley Gorse l'a fait avant toi,
oui.
À souligner qu'il y avait au Club Militaire beaucoup d'anciens militaires, en fait.
Ben oui, parce que le militaire est en bonne santé. Et pour faire ce métier-là, il faut quand même être en bonne santé. Hein. Donc, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Sinon, tu t'en vas au bout de 3 semaines, épuisé, exsangue, voilà.
Et au-delà de leurs origines militaires, ils avaient le sens du management et de la direction.
Oui, c'est ça, du collectif, de faire ce qu'il fallait faire, de la stratégie, quelque part. Tu vois, c'était des gens très intéressants, les militaires. Hein. Ils ont des valeurs, une certaine obéissance à l'ADN. Tu vois, c'est très intéressant ça. Et bon, et du coup, on a fait des trucs incroyables. Je me rappelle une fois, Abdel avait réussi à, comme il avait une charge et qu'il était adoré par les GM dans le village, il avait, disons, 90% du village dans son équipe. Et donc, les 3 autres patrons d'équipe faisaient la gueule. Et le jour, par exemple, au démarrage de cette journée olympique, incroyable, mémorable, avec des jeux incroyables, Richard avait enlevé Abdel, il l'avait pris du lit à 5h du matin, il avait été chopé en plein sommeil et l'ont attaché dans la mangeoire des chevaux au club hippique à 3 km du village. Et à 11h, quand il y a eu le rendez-vous des GM, évidemment, tous les gens qui étaient avec Abdel, où était Abdel, donc les 3 autres l'ont bien détruit, ont re-recruté les gens, et après ils ont libéré Abdel, qui n'avait plus qu'une 50aine de personnes dans son équipe.
Ils n'ont pas joué le rôle de la complémentarité entre l'animateur et le chef d'espoir ?
C'était bien plus rigolo comme ça. Tu sais, quand tu fais... cette année, j'ai fait du théâtre. Fais du théâtre. À 74 ans, j'ai fait du théâtre et j'ai été joué au Festival d'Avignon. Une pièce de théâtre sur le recrutement. On s'est éclaté. Mais moi, le théâtre, je ne savais pas ce que c'était. Respecter l'autre, respecter le jeu de l'autre. C'est-à-dire, moi, pour moi, j'avais mon café-théâtre du club. Et au club, le jeu, c'est de détruire le rôle de l'autre pour qu'on se marre un peu. Et ça, c'est pas du théâtre. Tu vois, c'est plus de l'impro, du café-théâtre, etc. Donc... voilà, on passe son temps au club, au plus grand plaisir des spectateurs, à détruire le rôle de l'autre. C'est tellement plus marrant comme ça, tu vois.
Alors, quelles sont les valeurs que tu as tirées de cette expérience du Club Méditerranée? Alors, quand est-ce que tu as quitté le Club Med?
Alors, j'ai quitté le club en 84, pour la simple et bonne raison que, étant chef de village depuis 5 ans, j'avais déjà fait un petit peu, depuis 3 ans, j'ai fait 6 saisons, oui. J'avais fait un petit peu le tour de la fonction, parce que moi, en fait, je voulais un niveau. Je voulais pas forcément mon bâton de maréchal, ça ne m'intéressait pas. J'avais bien bossé, j'ai fait ce qu'il fallait, mais je me suis marié, et j'avais un enfant, et pour cet enfant, je voulais pas qu'il reste dans les villages. Donc, du coup, j'ai quitté les villages, après j'ai fait tourner cinéma, puis après j'ai quitté ça pour faire du commercial, en congé sans solde, pour faire du commercial pur et dur. Et voilà, et pour pouvoir sortir du club, monter ma boîte, être autonome, en sachant ce que j'avais appris du club, et en ayant d'autres capacités à être autonome, commercial, etc.
Tu vois ? Donc 71-84, globalement, c'est 14 ans, 13 ans de
oui,
Club Med.
Ça, c'est ça. Et pour, si on a encore un petit peu de temps de raconter une histoire, tu me demandais les valeurs. Je dirais que les valeurs, elles s'expriment à travers ce qu'on fait, plus que ce qu'on dit. Et par exemple, j'ai fait Smyr en tant que chef de village en 78, l'été. Et le ramadan, on était au Maroc, hein, le ramadan est tombé entre le 14 juillet et le 15 août. Pleine chaleur pour les musulmans déjà, parce qu'il faut voir le nombre de personnes qui décèdent hein, pendant les ramadans en Afrique du Nord, hein, c'est, ou dans les pays musulmans très chauds. Il y a beaucoup de décès, hein, c'est très compliqué à gérer ça. Et donc moi j'avais tout mon personnel, hein, 450 personnes quand même, et moi j'ai toujours travaillé avec le personnel. Pour moi, la réalité des villages, le fonctionnement des villages, c'était le personnel local. Parce que nous on n'était que des gens de passage. Mais eux, c'était des gens du pays qui avaient à représenter leur pays, à être fiers de leur pays. Et j'ai toujours accompagné ça. Tu vois ? Ça a toujours été une priorité pour moi, plus que l'équipe géo.
Ça a toujours été dans la culture du Club Med, d'ailleurs.
Et ça a toujours été.
Gilbert Trigano y était très attaché.
Très attaché. Et franchement, moi, c'est quelque chose qui m'allait comme un gant. Et vraiment, j'ai adoré faire ça. Et donc, je me retrouve avec ce ramadan en plein milieu de la saison. Donc, on commence à discuter avec le chef de personnel. Je lui dis, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quoi ? Et puis, à un moment donné, je lui dis, mais... comment on sait que c'est le ramadan ? Alors il me dit, bah, c'est simple, tu as la lune qui se lève en croissant, et à l'intérieur de ce croissant, tu as l'étoile. C'est pour ça que le drapeau, il est comme ça, chez les musulmans, l'étoile et le croissant. Et c'est le début du ramadan, c'est un signe céleste. Mais ça, on le voit de la plage, tous les soirs. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place les 450 personnes qui travaillaient là, tout le monde en djellaba blanche, en robe blanche, etc., magnifique, avec les torches sur des chevaux, des ânes qui arrivaient en bateau par la mer, etc. Et depuis 18h jusqu'au lever de lune, je n'ai mis que de la musique andalouse sur la plage, et j'avais demandé aux marchands de tapis du coin de nous mettre des tapis sur toute la plage. Et on écoutait notre musique andalouse, et on buvait des cocktails, des thés à la menthe, des machins, etc. C'était top. Et au moment où la lune s'est levée avec le croissant, le chef de personnel, en français et en arabe, a expliqué le ramadan. Tu vois ? Il a fait pédagogie. Et quand tu commences à t'expliquer, les barrières culturelles tombent, les peurs tombent, les a priori tombent, et t'es juste des gens qui ont envie de vivre des choses sympas ensemble. Et du coup, eh ben, juste derrière, moi, en tant que chef de village, j'ai pu dire, ben, vous savez, ça va être très très dur pour eux. Donc, si vous voulez faire un peu plus votre lit le matin, si vous voulez ne pas boire devant eux au bar, si vous voulez ramener les assiettes au bord de la table, si vous voulez ramasser un petit papier par terre à gauche, à droite, ça sera moins pénible pour eux. Et vous en seront reconnaissants.
Eh bien, écoute, je crois que tu dois être remercié de souligner ce point qui était une des qualités du Club Med, où il y avait une mixité culturelle, sociale extraordinaire. Et cette démarche du Club Med nous a tous marqués, au point qu'on a les chakras ouverts à chaque fois qu'on rencontre une personne qui a une autre culture que la nôtre. Et je dois dire que, pour ce qui me concerne, c'est le principal bénéfice que j'ai tiré de mes 5 années au Club Méditerranée.
Ah oui, mais je te comprends bien. Je suis retourné dans ce village 23 ans après, avec ma petite famille, mes deux filles, qui avaient 5 ans, 8 ans, par là, en vacances. J'étais cassé, j'en pouvais plus. J'ai appelé le club, j'ai pris un billet, comme tout le monde. Et je suis arrivé en anonyme à Smyr pour une semaine de récupération. Et que mes enfants profitent du club, parce que je le connaissais bien, le mini-club de Smyr, c'était génial. Et bon, j'arrive, je vais au bar, et là, le chef de bar me dit « Mais tu es Gérard ?» Je dis, on se connaît. Il me dit, oui, moi j'étais jeune barman en 78, et c'était toi le chef de village. Ah, j'ai dit, ah bon, c'est incroyable ça. Il me dit, tu sais quoi ? Ma'alam kibir. Ça veut dire, t'étais un grand patron. Mais je dis, pourquoi tu me dis ça ? Il dit, c'est pas compliqué, je vais te montrer. Avec son petit accent, il passe derrière le bar et il ouvre. Je sais pas si les géos vont se marrer. Parce qu'il y a Gad Elmaleh parle toujours du truc, tu sais, on met les clés avec les vis Ikea qui restent sur le buffet. Eh ben, au club, au bar, tu as toujours un tiroir où il y a des vieilles boules qui traînent, des trucs, des décapsuleurs, tu as un tiroir.
De souvenirs.
De souvenirs. Et le mec va à son tiroir, il ouvre le tiroir, il y avait une photo dans le tiroir, toute pourrie, toute écornée, etc. Et cette photo, c'était toute l'équipe du bar et au milieu, éclaté comme une pastèque.
Bibi Gérard.
Bibi Gérard. Et le mec, il dit, tu vois ça? Ça, c'était une grande saison. Et uniquement parce qu'on avait fait cette histoire de Ramadan, sinon je n'avais pas fait ni plus ni moins que les copains, tu vois.
Tu as fait la petite chose qui était grande pour eux, les as respectés.
C'est ça. Oui, et puis, si tu me demandes ce que j'ai retiré du club, c'est cette leçon-là.
Merci beaucoup, Gérard.
Merci, je t'en prie, Jean-Philippe.